VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Ouagadougou, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En RDC, le président Joseph Kabila a saisi la justice pour des cas de corruption des gestionnaires de l'État. Une plainte remise au parquet hier par son conseiller spécial pour la bonne gouvernance, Luzolo Bambi Lessa. Les explications du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, au micro d'Eddie Issango.
Il s'agit du conseiller spécial du président de la République en charge de la lutte contre la corruption qui a déposé auprès du procureur général de la République un certain nombre de dossiers relatifs à la corruption. Étant donné qu'il y a une érosion sérieuse des moyens financiers de l'État à cause de ce phénomène, un retard dans le développement de ce pays, le parquet général de la République va entreprendre tous les devoirs d'instruction, entendre les personnes intéressées sur l'identité desquelles rien n'a été dit à cause du respect du principe de la présomption d'innocence qui fait que seul le parquet pourra communiquer ou rendre public l'identité des personnes concernées.
La RDC est 154e pays sur la liste des Transparency International. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
Ce qui vient d'être fait aujourd'hui est un pas de géant, toujours dans cette même bonne direction. Le président n'a pas institué un conseiller spécial, tout un service chargé de la lutte contre la corruption pour s'amuser. Il l'a fait pour mettre fin à ce fléau.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Rwanda proteste avec véhémence contre l'arrestation à Londres du général Emmanuel Karenzi Karake, chef des services de renseignement rwandais, suite à un mandat d'arrêt émis par la justice espagnole pour des faits ayant conduit à la mort de plusieurs ressortissants de l'Espagne. De telles protestations sont-elles justifiées? La réponse du chercheur Hugo Sada, spécialiste des questions africaines, à la Fondation pour la recherche stratégique, au micro d'Eddie Issango.
C'est un langage que je trouve un peu excessif de la part des autorités du Rwanda. Maintenant, c'est normal que cette rhétorique politique soit utilisée par les autorités rwandaises, mais la justice pénale internationale, elle obéit à des règles de droit. Donc, si le Rwanda estime que cette arrestation ne repose pas sur des fondements avérés, je pense que l'intéressé aura droit à une procédure judiciaire équitable. Et que si la preuve est faite de son innocence pour les faits qui lui sont reprochés, il n'y aura pas de suite. La procédure judiciaire engagée par les autorités espagnoles est liée à des faits qui concernent des ressortissants espagnols. Donc il n'y a aucune raison, motif judiciaire que la justice espagnole engage une procédure judiciaire pour crime contre l'humanité ou crime de guerre.
L'arrestation de M. Emmanuel Karenzi Karake, qui était en fait le chef des services de renseignement rwandais, ne fragilise-t-elle pas les régimes de Paul Kagame?
Je ne crois pas que le débat soit là et je ne crois pas que cette arrestation, elle a pour objectif ou pour arrière-pensée d'affaiblir ou de menacer le pouvoir de Paul Kagame. Je crois que elle obéit au droit, elle obéit aux droits des victimes, mais qu'elle n'a pas pour objectif d'aller déstabiliser d'une manière ou d'une autre le régime rwandais.
Hugo Sada, spécialiste des questions africaines à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Crise en RCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, fait état de nouvelles accusations d'abus sexuels sur des mineurs par des casques bleus dans le pays. Des précisions avec Michel Joseph.
Ces allégations d'abus sexuels par des soldats onusiens contre des enfants de la rue à Bangui ont été portées à la connaissance de la MINUSCA le 19 juin, a indiqué hier Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU. Les crimes pourraient remonter jusqu'à 2014, a-t-il dit, ajoutant que le pays dont le contingent est mis en cause a été immédiatement notifié. Selon le porte-parole onusien, une enquête a été ouverte et des soins médicaux sont prodigués aux victimes. En attendant les conclusions de l'enquête en cours, Stéphane Dujarric a dit que l'important, c'est que l'ONU réagisse promptement, qu'elle assiste les victimes et appelle les pays membres à assumer leurs responsabilités quant aux poursuites judiciaires contre les coupables. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le gouvernement du Mali a demandé hier à l'ONU de l'aider à appliquer l'accord de paix, à combattre le trafic de la drogue et à restaurer son autorité dans tout le pays, notamment le nord, où opèrent les groupes islamistes. Bagassi Koura.
La priorité des priorités doit être l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays et la fourniture des services sociaux de base, a déclaré devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le mandat de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, doit être renouvelé fin juin et le ministre Diop a longuement détaillé quelles devraient être les tâches prioritaires des quelques 10 000 casques bleus, appelant le Conseil à autoriser de nouveau la MINUSMA à aider le gouvernement malien à stabiliser les principales agglomérations, en particulier dans le nord du pays. La MINUSMA, en but aux attaques de groupes armés islamistes, est une des missions de l'ONU les plus exposées et son commandant a reconnu il y a quelques jours devant le Conseil qu'elle n'était pas à la hauteur de la tâche. Le Conseil a souligné que le ministre doit exiger que seules les forces armées maliennes disposent du droit et de la légitimité d'occuper toute localité du territoire national. Il a aussi jugé absolument essentiel qu'avec l'aide de l'ONU, il y ait une initiative forte qui émerge pour prendre en charge la lutte contre le trafic de drogue. M. Diop a réaffirmé la détermination de Bamako à honorer tous les engagements qui lui incombent dans cet accord.
Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes annoncent la reprise imminente des rapatriements de réfugiés ivoiriens qui ont fui le pays lors de la crise post-électorale de 2010-2011 pour aller notamment au Ghana, au Togo, en Guinée et au Libéria. Un retour qui sera facilité par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Plus de détails avec Mohamed Askia Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire, au micro de Jean-Roger Bion.
Effectivement, le gouvernement ivoirien a donné son feu vert pour le rapatriement des réfugiés ivoiriens qui sont encore dans les pays d'exil et qui sont surtout dans la sous-région, à savoir le Libéria, le Ghana, le Togo et la Guinée. Donc, on évalue le nombre à peu près 60 000 personnes.
Il y avait jusque-là un blocage. Est-ce que les blocages sont levés?
Le blocage qui avait empêché le retour de ces réfugiés ivoiriens était lié à la crise Ebola. Donc, la crise Ebola qui sévit dans la sous-région depuis plus d'un an a effectivement été un frein pour le rapatriement de ces derniers. Mais à partir du 9 mai 2015, Ebola a été déclaré vaincu au Libéria, donc c'est ce qui explique le déblocage de la situation et la décision du gouvernement ivoirien de permettre le retour le plus rapidement possible de ces réfugiés au Libéria.
Alors parmi ces réfugiés, il y avait des réfugiés politiques. Les obstacles politiques sont-ils levés pour le retour de ces personnes?
Bien entendu, le rapatriement est ouvert à tous les réfugiés ivoiriens, quel que soit leur appartenance politique, leur appartenance ethnique. Je dis que c'est un blocage qui n'existe pas. Donc toute personne qui se sent l'envie de revenir dans son pays d'origine peut se prévaloir de ce droit et cela se fait effectivement sous les auspices du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec le pays d'origine et le pays d'origine.
Mohamed Askia Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire. Maintenant, des nouvelles économiques d'Afrique de l'Ouest avec Camille Gros-Didier.
Les carences alimentaires dont souffrent les enfants du Burkina Faso coûtent environ 8% du produit intérieur brut par an à ce pays sahélien, a révélé une étude rendue publique mardi. L'économie burkinabé perd chaque année près de 409 milliards de francs CFA du fait des effets de la sous-nutrition infantile, soit 7,7% du PIB national, affirme ce rapport sur le coût de la faim dirigé par l'Union africaine et qui est cité ici par l'agence France Presse. Le gouvernement du Bénin a décidé lundi de dissoudre l'inspection générale de l'État pour la faire remplacer par un autre organe qui disposera d'une autonomie financière et d'une indépendance pour renforcer la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption au Bénin, signalent les médias. Une décision prise suite à une enquête diagnostique sur la corruption et la gouvernance. L'enquête a montré que les problèmes de gouvernance et de corruption finissent parfois par décourager les usagers béninois.
En France, l'Élysée qualifie d'inacceptables les allégations selon lesquelles les États-Unis auraient mis sur écoute le président François Hollande et ses deux prédécesseurs Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac et souligne la détermination du gouvernement français de ne tolérer rien qui menace la sécurité du pays. Propos contenus dans le communiqué de la présidence française après la réunion de François Hollande avec son conseil de défense aujourd'hui pour discuter des révélations de Wikileaks relayées par le quotidien Libération. Côté américain, la Maison-Blanche a assuré hier soir que les États-Unis ne ciblaient pas les communications du président Hollande et ne le feraient pas. Et pour terminer, le gouvernement américain ne va plus menacer de poursuites judiciaires les familles d'Américains pris en otage à l'étranger qui essaient de négocier avec les ravisseurs ou de payer des rançons pour leur remise en liberté. Un nouveau développement qui devrait être rendu public demain par le président Barack Obama, ou plutôt aujourd'hui par le président Barack Obama, quand il présentera à la Maison-Blanche un examen approfondi de la politique américaine dans ce domaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.